André Lichtenberger, le père Metzeral. Le père Metzeral a 92 ans. C'est dire qu'en 1871, ses tempes blanchissaient déjà. Son enfance, sa jeunesse, la meilleure part de sa vie d'homme, il les avait vécues français. L'annexion a été pour lui le coup de foudre qui estime un chêne. Partir, quitter l'Alsace, son paisible village de Rothmar, la vaste maison au grand toit, cabossé, expressif comme un vieux visage grimaçant, et fidèle, non, impossible. De la terre dont il est issu, où depuis les générations, les Metzeral sont retournés dormir dans le gai petit cimetière carré à côté de l'église, Onimus Metzeral ne peut pas se détacher. Cela n'est pas seulement au-dessus de ses forces, c'est contre nature. C'est impie, c'est lâche. Ils seraient trop contents si on leur cédait la place, les bandits. S'en aller, c'est fuir, c'est déserter. Impossible. Donc Onimus Metzeral n'a pas fui. Dans le village, il est demeuré, statue tenace du souvenir. Il paraît qu'alentour, il a bien fallu que la vie reprenne. Des gens ont disparu, des Allemands les ont remplacés. Le père Metzeral vit en dehors de ces choses. Depuis 44 ans, il n'a pas quitté son village, sa maison. Le temps de jeter sur ses champs un coup d'œil du maître. Il n'a jamais parlé allemand. Il n'en a jamais salué un. Il les ignore. La solitude s'est faite autour de lui. Sa femme est morte. Puis, à mesure qu'il grandissait, il a fallu éloigner les 5 fils. Les Metzeral ne porteront pas les casques à pointe, donc les jeunes gens, l'un après l'autre, sont partis. Ils se sont établis en France, 2 dans les Vosges de l'autre côté et 3 à Paris. Ils ont réussi, se sont mariés, ont eu des enfants, qui eux-mêmes, depuis quelques années, commencent à se marier, ont des bébés. Il y a eu de longues périodes où le père Metzeral n'a revu aucun des siens. Tout seul, avec sa gouvernante, Mademoiselle Emma Effelé, il a continué de monter sa garde. Et depuis quelques années, une douzaine de fois, entre le 1er janvier et le 31 décembre, l'un ou l'autre vient lui souhaiter le bonjour. Il connaît maintenant tous ses récits enfants, et même 2 ou 3 des mioches. Celui qui vient le plus souvent, c'est l'aîné des fils, Jules Metzeral, qui a monté une filature à 10 kilomètres de la frontière, du côté français. 2 heures d'auto suffisent pour l'amener. C'est par lui, surtout, que de temps en temps, le vieillard apprend les nouvelles des uns et des autres, et même du reste du monde et de toutes choses. Car si la taille du vieux Metzeral s'est à peine voûtée, si sa volonté est intacte et son visage au trait massif a peu changé, tout de même, autour de lui, la vie a diminué. Sa vue de loin est encore assez distincte, mais même avec des lunettes, il arrive difficilement à lire un journal, à écrire une lettre. Aussi a-t-il renoncé? Il n'écrit plus, il ne tient pas ce qu'on lui écrive. Mademoiselle Lélaid lui ferait bien la lecture, mais il s'en soucie pas. Tous les matins, il interroge pour la forme. « Rien de nouveau, Mademoiselle Lélaid ?» Et il n'écoute pas. Les choses du village ne l'intéressent plus. Ses contemporains sont morts. Les jeunes gens de 60 ans sont indifférents. Il vit retiré dans sa maison, fait le tour de son jardin en fumant sa pipe. Voilà 2 ans qu'il a franchi le portail. Il reste enfermé dans ses souvenirs. Et dans ses espérances, oui, avec des grappins d'acier, elles sont crochées à la substance même de son cœur, de chêne. Chaque fois qu'il revoit Jules ou un autre de ses fils, il y a d'abord les questions sur les santé, les affaires, les progrès des petits. Il y a les réflexions sur les choses publiques. Et puis, au moment des adieux, la même phrase jaillit des lèvres minces au milieu de la face ligneuse. « Dis donc, quand tu seras de retour là-bas, recommande-leur de se dépêcher. Je veux pas mourir prussien. » La dernière fois que le vieux l'a articulée, cette phrase-là, c'était au moment de la visite de Jules, vers la fin de juillet dernier. Jules a répondu comme d'habitude en souriant, « Bien sûr !» Ses adieux faits, il est remonté en auto, il a disparu. Et le père Metzeral est retombé dans sa solitude, dans ses pensées. Cette année, la saison est d'une splendeur exceptionnelle. Les promesses d'août sont plus dorées, encore plus luxuriantes que de coutume. Il y a une beauté, il y a une douceur merveilleuse. Parmi les volutes de sa pipe, le vieillard suit des visions imprécises. Il goûte autour de lui la paix radieuse de la plantureuse nature. Il consent à ce qu'autour de lui ses horizons se rétrécissent. Oh, il ne connaîtra pas les derniers venus, les tout-petits. Qui sait même s'il reverra ses fils dont les cheveux grisonnent. Il a 92 ans. C'est le temps de penser à la fin. Oh, ne les ferai point, et pourtant une mélancolie l'obscurcit. Je ne veux pas mourir prussien. Metzeral a 92 ans. Combien de temps la mort lui laissera-t-elle encore pour exaucer son vœu? Peut-être des semaines, à peine des mois. Ce n'est guère, et sans doute que c'est trop peu. Quelque chose comme un poids plus lourd s'est affaissé sur le vieillard, appesanti son cœur. Ses membres aussi. Depuis le commencement de l'autre semaine, les rhumatismes l'immobilisent au fond de son grand fauteuil dans la salle du rez-de-chaussée. Souvent déjà, durant de longs jours, il y est demeuré. Pourquoi, cette fois, sa réclusion lui cause-t-elle un trouble, une sorte d'angoisse? D'habitude, il demeure indifférent au ruissellement des heures et des événements. Pourquoi y a-t-il chez lui comme une curiosité, une inquiétude si vive? A-t-il, quoique son oreille devienne dure, perçu quelque chose des bruits du village? Son regard demeuré vif, ne scrute-t-il pas avec plus d'insistance les traits moutonniers de Mademoiselle Lélé? N'a-t-elle pas les paupières battues et les mains tremblantes? Au temps où M. Onimus était tout à fait vivant, ces choses-là signifiaient de l'émoi. Il y a dans l'air de l'inusité. Le vieillard aurait une tentation vague de questionner, aussi pourtant une crainte inavouée d'apprendre. Bon, qu'importe les rumeurs du dehors, à son âge on n'a plus besoin de savoir. Mieux vaut oublier, ignorer, dormir. Pourtant, ce matin, après que, comme de coutume, il a interrogé « Rien de nouveau, mademoiselle Effelé ?» et que, plus vite et plus bas encore que de coutume, elle a répondu « Oh, rien de bien particulier, monsieur Onimus !» et formulé son espoir qu'il avait dormi aussi bien qu'elle, le vieillard a bougonné entre des gencives nues. « Alors, mademoiselle Effelé, c'est que vous avez bon sommeil !» Le sang brille aux joues de Mademoiselle Effelé, comme à l'heure lointaine, où le papetier Lautreverville lui déclara sa flamme. Et soudain, devenue blême, elle balbutie. « Que voulez-vous dire, monsieur Onimus ?» Il grogne. « Mille pipes, Mademoiselle Effelé, ces coups de mine m'ont tenu éveillé la moitié de la nuit !» La poitrine de Mademoiselle Effelé se soulève imperceptiblement et avec volubilité, elle acquiesce. C'est juste, oui. Oh, elle avait oublié. Oh oui, c'est insupportable. Ce sont ses nouvelles carrières du côté de Morgenwiller. Alors, sans doute que M. Metzeral est bien fatigué ce matin. Il va se reposer tout de suite. Mais non, non, à son âge, on n'a plus grand besoin de sommeil. Il a 7 8 mois souffert de ses douleurs. Et avec ce joli soleil, il aurait presque envie, pour voir, d'essayer un tour de jardin. Mademoiselle Effelée sursaute comme si elle avait percevé un serpent. Elle joint les mains, lève les yeux au ciel. Monsieur Benzéral n'y songe pas. Justement, il y a de l'humidité et presque un peu de courant d'air. De quoi prendre un refroidissement. Elle s'arrête. Babette, la cuisinière, passe à la porte une tête congestionnée, où son bonnet chavire et appelle d'une voix qui s'enroue. Mademoiselle Fêlée, venez vite! Mademoiselle Emma se lève précipitamment, on court à elle. Toutes deux causent à mi-voix avec des gestes. Un nouveau coup de mine éclate, fait trembler les vitres de la maison. Babette se cache le visage sur son tablier. Mademoiselle Emma a un signe de croix et gémit. Ah, oh, mon Dieu! Et toutes deux sortent précipitamment. Le vieillard, demeuré seul, branle la tête, sourit en lui-même. Ah, les femmes, les femmes! Tout en bourrant sa pipe avec difficulté, il parcourt du regard la pièce familière. Les vieux meubles, le coucou de la forêt noire, les faïences, le poêle gigantesque. Sur l'arrière danse, des photographies sont alignées. Même sans distinguer les traits, le vieillard peut en passer la revue. Ses grands-fils, ses brus, ceux qui sont nés de longue et des tout petits. Le dernier portrait reçu est celui de Charles, avec son uniforme de sous-lieutenant de zouave. Onimus Metzeral soupire. Ses yeux quittent la chambre. Pensif, il contemple à la fenêtre les nuages qui courent dans le ciel. Des nuages très légers et blancs qui se forment et se dispersent en quelques secondes. De temps en temps, on croirait entendre un tonnerre lointain. Cependant, le temps est très pur. Certainement, un tour de promenade ne lui aurait pas fait de mal, surtout s'il avait eu pour s'appuyer un bras solide, celui de Jules, par exemple. Ah, quand le reverra-t-il? Aujourd'hui, il aurait besoin plus que d'autres jours d'entendre sa voix, de savoir des choses, d'être rassuré. Et tout à coup, M. Bedgerald tressaille. La porte s'est ouverte, une haute taille s'y encadre. Bonjour, père! Dans son costume d'automobiliste, c'est Jules Metzeral en personne. Le vieux a une exclamation de plaisir. Oh, voici une surprise! La santé va toujours, aussi celle de la femme, des enfants, de tous les autres. Oui, parfait! Et avec bonne humeur, Jules Metzeral subit l'interrogatoire ordinaire. Quand il se tait, la face du vieillard se fend d'un sourire et il reprend avec un soupir de soulagement. Oh, je suis content. Figure-toi que ce jour-ci, oh, je suis vieux, tu sais. J'avais des idées. Il me semblait qu'on me cachait les choses. Alors, il s'est rien passé de fâcheux. Non, rien du tout, père. Et après une pause, le fils ajoute, les yeux au parquet. Rien du tout de fâcheux, au contraire. Au contraire, Jules mesure ses paroles. Sous les buissons gris, les sourcils énormes, les prunelles claires du vieillard se dardent sur son fils. Au contraire, qu'est-ce que ça veut dire? La dernière fois, on espérait pour Charles son deuxième galon. Est-ce que... Bien justement, il vient d'être nommé. Et avant-hier, j'ai voulu te l'annoncer. C'est une bonne nouvelle, tout de même. Le vieillard hoche la tête. Tout de même, Jules, c'est pas encore pour moi celle qu'il faudrait. Quand viendras-tu me dire que je suis plus prussien? Le fils à la barbe grisonnante a un sourire. Bientôt, peut-être. Le vieillard grommelle. Ben, dépêchez-vous, je ne puis plus attendre longtemps. Mais tu sais, père, l'on parle beaucoup de la guerre. Bah, plus le temps qu'on en parle. Peut-être que cette fois, c'est plus sérieux, beaucoup plus sérieux. Jules Metzera ne bavarde pas à la légère. Son père envisage. Jules soutient le regard du vieillard et répond les yeux dans les yeux. Mais il y a même des gens qui prétendent qu'elle est déclarée. La guerre déclarée? La guerre? Jules Metzera l'a acquiescé d'un signe de tête grave. La guerre, mais alors? Le vieillard a lâché sa pipe qui tombe à terre et se fracasse. Mais alors, toi qui habites de l'autre côté de la frontière, que fais-tu ici? Comment es-tu venu? Jules Metzera rapproche son siège de celui de son père. Eh bien, ça veut dire peut-être que les affaires vont pas trop mal, pas mal du tout. Le vieillard est debout, il redresse, très grand, sa haute taille. Jules Metzera, très pâle, les yeux fiévreux, les lèvres tremblantes, s'est levé aussi et lui tend ses deux mains. Tu ne comprends pas, père? Mais le vieux a un pas en arrière, un signe de dénégation, non? Il a peur, non, c'est pas possible, c'est un rêve. Un rêve. Presque à t'arracher de ses gonds la porte de salle faite au mur, bat avec fracas. Et sur le seuil surgit svelte, souriant, gigantesque, un lieutenant de zouave en grand uniforme. Tandis que ses armes se reforment, Charles Metzeral a eu 5 minutes pour embrasser son grand-père. Il lui prend le bras et doucement l'entraîne vers le vestibule, le soutient, le conduit, et debout, sur le pas du portail, Onimus Metzeral, les yeux éblouis, assiste à un défilé de vertige. À travers la rue, dans un bourdonnement de fête que scande la voix du canon, ce sont les bérets des Alpins, les zouaves, les capotes bleues des lignards, les caissons qui roulent, le 75, la sonnerie des clairons, le drapeau trois couleurs qui, passant, s'incline devant lui. Alors il est rentré, retombe dans son fauteuil, et il murmure: Oh, maintenant je puis m'en aller. Hélas, dans les temps que nous vivons, la réalité est plus impitoyable que la complaisante fiction. De ce récit vrai, où je n'ai pas changé que quelques noms et quelques détails, voici l'épilogue. Après 8 jours, nos troupes refoulées à la fin d'août ont évacué le village. Depuis 7 mois, l'ennemi le réoccupe. Le lieutenant Charles Metzeral a été tué d'une schrapnel à la bataille de la Marne. Le père Metzeral n'est point mort le jour qu'il eût fallu. Il a connu son deuil, la défaite, soit un crêpe au bras, puisqu'il le faut, il vivra. Il a attendu 44 ans, il peut bien attendre quelques mois. Qu'importent les douleurs, les sacrifices? Tel un vieux roc demeure invulnérable sous la tempête. Il ne mourra pas prussien. Et française, l'Alsace revivra.